C'est à boire qu'il nous faut, saison 3, épisode 4. Votre balado vino.
Salut! Bienvenue à C'est à boire qu'il nous faut, saison 3, le balado qui vous fait découvrir le monde du vin et vous donne envie de faire voyager vos papilles gustatives. Moi, c'est Émilie Sénécal et je suis accompagnée de la sommelière Charlotte Arel-Richard.
Salut, Émilie!
Salut! Donc, dans cet épisode, on vous apprend tout sur les cépages, de la génétique jusqu'à l'étymologie. Quelles sont les origines des cépages? Qu'est-ce qui les distingue? Et en fin d'épisode, on teste notre diction en vous citant le meilleur des pires noms de cépages du monde entier, comme Chasninoso. En tout cas, ce vin doit être très bon avec du Promiscuito.
Prosciutto.
C'est parti! Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, ce sont des noms que vous entendez ou lisez fréquemment quand vous allez à la SAQ, et ces noms sont des cépages, donc des variétés de vignes différentes. Est-ce qu'on sait combien on peut compter de cépages dans le monde?
Bien, pour répondre à ta question, Émilie, on ne connaît pas le chiffre exact, mais le pape des cépages, Pierre Gallet, en a recensé près de 10 000 à travers le monde. C'est énorme. Et puis, juste sur le site Internet de la SAQ, moi, personnellement, j'en ai répertorié 428.
Oh, wow, OK. Moi qui étais fière de pouvoir en nommer 10 puis gagner à ce categories, je pense que j'ai des croûtes à manger.
Mais c'est pas pour rien que tu en connaisses que quelques-uns. Hein. Il y a certains cépages qui sont plus connus, mais aussi plus en demande. Certains comme, par exemple, le Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay, Sauvignon Blanc sont classés comme des cépages internationaux parce qu'ils sont plantés partout dans le monde. Alors, c'est normal qu'on les voit plus. Mais savais-tu que le Cabernet Sauvignon, c'est le cépage de cuve le plus planté, alors qu'il ne représente que 5 % de la plantation mondiale? C'est pour dire à quel point là, il y a une grande quantité de cépages. En plus, c'est normal que l'on reconnaisse mieux ceux qui ont une consonance francophone plutôt que les cépages indigènes hongrois, là, par exemple. T'sais, parce que Furmin, là, c'est peut-être un peu plus facile à retenir, mais on s'est entendu que des noms comme Arslevelu, Léanica ou Kadarka, ben, on a un peu plus de misère.
Non, je comprends. Je comprends. Alors, ces cépages qu'on pourrait aussi nommer cultivars en bon terme scientifique, puisqu'il s'agit de différentes variétés, de mélanges de variétés de la même espèce, soit le vitis, le nom latin qui désigne l'ensemble des vignes. Et pour vous faire une idée, c'est comme les pommes. Là. On en a parlé dans le dernier épisode. Il y a différentes sortes de pommes à l'épicerie, des Cortland, des McIntosh, des Gala, des Granny Smith. Puis chacune a sa morphologie, des couleurs, une signature génétique différente. Alors, pour comprendre l'origine des cépages, il faut s'attarder à la génétique. Mais là, partez pas, là, on va pas s'enferger dans les fleurs du tapis. En gros, chaque cépage a une signature génétique unique qui est le résultat de siècles et de siècles de viticulture, de travail, de croisement, de sélection et d'amélioration génétique naturelle. Un peu comme Homo sapiens sapiens, hein, qui a évolué au fil du temps. Au début, bon, dans la ligne du temps, il y avait Homo erectus, l'homme de Néandertal, puis finalement, ben, bon, il y a des branches qui se sont séparées, mais ce que je veux dire, c'est que on a évolué, l'homme aussi a évolué au fil du temps. Il y a eu la sélection naturelle et tout, donc c'est quelque chose de naturel.
Très bien expliqué, Émilie, très bien résumé. Donc, oui, en fait, des généticiens ont réalisé l'arbre généalogique des cépages et ça a donné quelque chose d'assez étonnant. Finalement, c'est une histoire de famille, les cépages, avec des ancêtres communs, des cousins, des frères et des sœurs. C'est assez passionnant. Mais même moi, là, je ne les connais pas tous, puis c'est souvent des questions d'examen en sommellerie ou des examens de concours de savoir les parents des différents cépages, d'ailleurs. Mais je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est surtout de les regrouper par famille. Il y a les sérines, par exemple, qui contiennent la Syrah, la Marsanne, la Roussanne. Puis ça, c'est une famille qui est originaire de France. Il y a les Camernais, qui sont originaires plutôt d'Espagne, eux qui regroupent, eux, le Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carménère, Petit Verdot, etc.
OK, oui, donc j'imagine que ça doit être un peu consanguin, tout
oui,
ça.
Oui, exactement. Donc, il y a tout, c'est ça, des cousins, des frères, des sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs. Hein, ouais,
Mon Dieu, on se croirait dans Ramdam.
Non, mais ça fait des beaux parties du jour de l'an, là, tout ça.
En effet.
finalement, pour terminer, il y a par exemple le Pinot Noir, le Gouais Blanc, qui sont le Gouais Blanc qui est un cépage un peu obscur maintenant, mais le Pinot Noir qui est un cépage que beaucoup de personnes connaissent. Les deux seraient un couple fondateur à l'origine d'au moins 16 cépages connus, comme par exemple le Chardonnay, la Ligotée, le Gamay, qui seraient finalement des demi-sœurs ou des demi-frères.
Aspirant chef, je vous demanderai de tout arrêter, s'il vous plaît. J'ai une annonce à vous faire.
L'ampélographie est une science qui mélange botanique et œnologie. L'ampélographe étudie les différentes variétés de vignes, du grec ampélos, qui veut dire vigne.
Oui, chef!
Oui, chef!
L'ampélographie, donc, permet d'identifier des variétés de vignes, sans quoi il pourrait y avoir parfois des erreurs malencontreuses. Et c'est ce qu'il s'est passé en 2009 pour des viticulteurs australiens qui croyaient cultiver du Albarino blanc, mais... Suite à des analyses génétiques, des scientifiques français ont pu confirmer qu'il s'agissait plutôt de Savagnin blanc.
Ils ont dû être fichtrement surpris, hein?
Oui, les pauvres, ils ont été floués. Imagine, si toute ta vie, on disait que tu mangeais de la pizza du resto, mais que finalement, on t'avoue que c'était de la délicio.
C'est pas du resto, c'est délicio, mais pour vrai, je le prendrais pas.
Moi non plus. Vraiment, on s'entend que c'est différent, là, délicio puis resto, là. En tout cas, bon, je...
La croûte est plus mince, c'est délicieux, non? Quelque chose comme ça.
Bref, j'aimerais qu'on explique un peu mieux comment est-ce qu'un cépage vit au monde. Ça n'arrive pas en criant ciseaux, on le dit, c'est une évolution génétique. Pour commencer, quand on parle de croisement, de quoi il s'agit exactement?
Croiser deux cultivars, grosso modo, c'est comme un accouplement. Mais tu te doutes sûrement que le règne végétal, là, ça se reproduit pas exactement comme le règne animal.
Oui.
Donc, j'ai discuté avec Alain Bro de chez Viticulture A&M à Saint-Paul-d'Abbotsford pour qu'il m'explique un peu comment ça fonctionne. Donc, Alain Bro m'a expliqué que pour croiser deux cépages, on prend manuellement le pollen de l'étamine, qui est l'organe mâle d'une fleur, d'un individu X, et on le dépose sur le pistil, qui est l'organe femelle de l'individu Y. On garde un sac en papier sur les fleurs pour pas que d'autres pollens étrangers viennent féconder les fleurs. Puis selon M. Bro, il est rare de voir des vignes OGM car on ne connaît pas en fait les retombées futures, les conséquences à long terme. C'est pourquoi les hybrideurs préfèrent rester à la méthode manuelle.
Ah, le principe de précaution.
On peut donc créer des cépages de façon intentionnelle avec la méthode manuelle, mais il y a des nouveaux cépages qui peuvent aussi apparaître avec la pollinisation naturelle, soit comme dans un champ où une abeille butine puis amène le pollen de d'autres fleurs de vigne sur les fleurs.
OK. On comprend alors qu'est-ce que le croisement et qu'en est-il de l'hybridation?
On parle d'hybride quand c'est un Vitis vinifera qui a été croisé avec un Vitis labrusca ou riparia, toujours par pollinisation.
Mm-hmm.
Donc, un croisement entre deux genres différents. Donc, le Vidal ou le Ceival, par exemple, sont issus d'une hybridation de labrusca et de vinifera. Maintenant, toujours selon M. Alain Bro, il faudrait dire métis lorsque ce sont deux parents Vitis vinifera, comme le Müller-Thurgau, qui est un croisement entre le Riesling et la Madeleine Royale.
Ensuite, après le croisement, l'hybridation, bon, j'espère que vous suivez toujours tout le monde, là. Il faut aussi ajouter qu'il y a des mutations aléatoires naturelles qui surviennent dans l'ADN de la plante. Hein. Comme ça arrive chez l'homme aussi, le gène des cheveux blonds, par exemple, qui est issu d'une petite erreur génétique dans l'histoire et qui a fait que maintenant, il y a des blondinets sur la terre. Donc, il peut arriver qu'un plant de vigne donne des raisins plus goûteux, plus volumineux. Alors là, on va sélectionner ce plant-là qui a subi une mutation aléatoire et on va le multiplier pour conserver ses caractéristiques au fil du temps.
Tout à fait. C'est ce qui s'est passé au fil des siècles. On peut imaginer que les raisins utilisés par les Romains ou les Grecs dans l'Antiquité n'étaient pas exactement les raisins d'aujourd'hui. Les vignerons ont développé des méthodes pour reproduire un même cépage, comme le bouturage, par exemple.
Bravo, chers auditeurs, auditrices. Vous avez passé au travers ce petit cours ampélographie 101 génétique. On vous envoie votre certificat en carton par la poste sous peu. Maintenant, je me demande d'où vient le nom des cépages. Hein? On en a parlé en début d'émission. Des fois, c'est difficile à prononcer. On ne sait pas trop d'où vient le nom. Est-ce qu'on a des traces des premières catégorisations de vignes, un espèce de premier répertoire, un bottin téléphonique des cépages?
Peut-être pas un bottin téléphonique, Émilie, 411, ça serait génial, mais pour les vieux cépages, en tout cas, l'étymologie des noms est assez incertaine. Mais j'ai lu sur Internet que Chardonnay viendrait de l'hébreu Shahar Adonai, qui veut dire « les portes de Dieu ». Non, 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 ce serait génial, non?
On parle toujours de religion.
Non, mais c'est bon finalement ça. Le chardonnay, par ses arômes divins, nous transporte jusqu'au paradis, peut-être. En tout cas, bref, pour les cépages modernes, il s'agit souvent du nom de son créateur.
Mm-hmm. Et tu dis créateur au masculin, car on connaît peut-être pas un nom de cépage qui a été créé par une femme.
En effet, c'est que des présomptions. Mm-hmm. Je n'ai jamais vu ça dans mes recherches, mais en tout cas, peut-être qu'à quelque part, il y a une femme qui a créé un cépage. Mais pour répondre à ta question concernant des répertoires de cépages anciens, on a retrouvé des écrits datant de l'Antiquité qui identifient certaines sortes de vignes. Après, dans le Moyen Âge, les cépages tels que le fromentel, le gouet, le morillon ou le gros noir de la région de Paris, l'ancien vignoble qu'il y avait aux portes de la ville, étaient les plus répandus au 13e siècle. Chose curieuse, dans ce temps-là, le blanc était prisé par les nobles, notamment la folle blanche, qui est la mère du chenin blanc et du pinot donné, cépage très populaire aujourd'hui dans la Loire.
Folle blanche, j'adore, ça me représente très bien. Non, mais je vois que ça remonte à loin de donner des noms à coucher dehors à des types de raisins.
Oui, madame.
Est-ce que ça existe encore, le fromentel, le gros noir? Est-ce qu'on les plante encore?
Non, je pense pas que ce soit des cépages encore utilisés, ou en tout cas, s'ils sont utilisés, c'est bien cru à quelque part en Europe. Là, on n'en parle pas vraiment. Mais si tu veux parler de cépages anciens, le Cabernet Franc est vraiment un bon exemple. Parce qu'on peut retracer son mouvement dans l'histoire, puis c'est un des plus vieux, puis il y a eu beaucoup d'enfants, comme le Cabernet Sauvignon et le Merlot.
Ah, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
C'est comme Cendrillon, exactement. Donc, on retrouve dans certaines régions des cépages un peu plus obscurs. Tant qu'à moi, la Géorgie est reine en ce qui concerne les vieux cépages, mais on retrouve aussi partout en Europe. On les appelle, ces cépages-là, des cépages indigènes. Ce sont souvent les mieux adaptés à leur région. Puis en Europe, par exemple, l'Italie en compte plusieurs. Vous avez probablement entendu parler déjà du Sangiovese, du Nebbiolo, du Nero d'Avola. Donc, ce sont des cépages indigènes qu'on connaît plus, ils sont un peu plus populaires, mais il y en a d'autres comme, par exemple, le Saperavi, le Mitvan ou le Riscatelli, qui sont des cépages de la Géorgie que là, on n'entend pas du tout parler. Puis c'est un peu plus difficile de les répertorier, ceux-là, parce qu'il y en a tellement. Puis au final, il faut les chercher, les explorer, puis c'est fascinant, le monde des cépages, là.
Wow, je te vois bien dans le rôle de Dora l'exploratrice des cépages.
Sac à dos, sac à dos.
À part ça, j'aimerais clarifier quelque chose qui m'a longtemps embrouillée quant au nom des cépages. Il y a longtemps, je mélangeais l'origine du vin et le cépage. Par exemple, le Bordeaux ou le Chablis, ben je disais OK, on va acheter un Chablis, mais j'avais pas réalisé qu'il s'agissait du lieu de production et non du cépage.
C'est normal de faire d'être confondu, mais parce qu'en fait, c'est des noms qui sont hyper connus et renommés. Parce que même au 13e siècle, des noms comme Montbazillac, Claude Vougeot, Chablis, Châteauneuf-du-Pape, ben, ça existait déjà. Puis, mais en fait, ces noms-là représentent des communes, donc des municipalités en France où les moines locaux cultivaient la vigne et fabriquaient le vin qui en ont fait leur renommée. Puis par exemple, à Chablis, ben, on fait pousser exclusivement du chardonnay. Finalement, c'est l'association du cépage unique avec la région qui nous a fait penser que Chardonnay-Chablis, c'était la même chose.
OK, donc c'est pas si pire là, si je dis à mon chum de me ramener un Chablis de la SAQ parce que automatiquement, ce serait un Chardonnay.
Mm-hmm.
Mais à l'inverse, si je demande un Chardonnay, là, il pourrait revenir avec des vins de plusieurs pays du monde.
Exactement.
Est-ce que ça existe une carte des cépages du monde entier, là? Est-ce que ça ressemblerait à quoi?
Ben oui, il en existe. Puis en fait, on retrouve les cépages internationaux un peu partout sur chaque continent. Mais comme je disais, chaque pays a son lot de cépages indigènes. En Amérique du Nord, dépendamment si on est dans le nord ou dans le sud, on retrouve des cépages internationaux ou encore des hybrides puisqu'on a besoin de cépages adaptés à notre climat froid. En Amérique du Sud, en Afrique et en Océanie, à cause des mouvements colonisateurs et immigrants, ce sont souvent des cépages qui sont arrivés avec les conquêtes. Donc, on retrouve des cépages qui se lient aux pays conquérants et ou à des mouvements migrateurs. Ce qui n'empêche pas, par contre, les pays d'avoir des cépages autochtones, comme par exemple en Argentine, où on a le cépage métis indigène, le Torontes, qui est un croisement entre le Muscat d'Alexandrie et le Criolla Chica, venus les deux d'Espagne. Puis en Afrique du Sud, les vignerons ont fait un cépage métis qui s'appelle le Pinotage, qui est un croisement entre le Pinot Noir et le Cinsault.
C'est le parfait moment pour répondre à notre question quiz du dernier épisode. Quel est le cépage le plus planté au Québec? Et la réponse, c'est...
Le Frontenac noir. Donc, le Frontenac noir est un hybride qui est planté depuis 2001 et qui a été créé à l'Université du Minnesota en 1978. Il est fait d'un croisement entre le Riparia 89 et le Landau noir, qui sont eux-mêmes des hybrides, mais je ne veux pas montrer tout le pedigree du cépage parce qu'on serait là pendant des heures.
Bien, si vous avez eu la bonne réponse, félicitations, c'était pas évident. Et c'est quand même particulier que le cépage le plus utilisé, bien, le plus planté ici, s'appelle Frontenac, parce que c'est quand même le nom du célèbre gouverneur de la Nouvelle-France. D'ailleurs, vas-tu nous lire un extrait de son journal?
Non, c'était juste une fois.
Juste Jean-Cartier. Oui. C'est bon. Ma prochaine question, tu vas peut-être pas l'aimer.
Je te vois venir.
Non, non, non. Parce qu'une fois, tu m'as dit que c'était l'affaire la plus quétaine à demander à une sommelière.
Là, là, tu vas pas me demander c'est quoi mon cépage préféré.
Ben oui, c'est ça. C'est quoi ton cépage préféré, Charlotte?
Pour satisfaire ta curiosité, Émilie, j'aime bien les cépages rouges italiens, le Riesling, mais ce que je préfère, en fait, c'est surtout... les vins représentatifs de leur terroir. Et quand je connais les producteurs, ben ça, c'est, j'adore, quoi.
Oui, je sais, tu tombes en amour.
Avec le monde.
Et c'est le moment de répondre à notre courrier de la semaine. J'ai ici une question de Bernadette de Sainte-Thérèse. Pourquoi est-ce qu'on mélange les cépages?
Ben, merci pour la question, chère Bernadette. Les assemblages, soit les mélanges entre les différents cépages, c'est comme ça qu'on appelle ça, existent dans certaines régions, parfois par tradition, mais aussi par goût. Bordeaux, par exemple, assemble ses vins depuis plusieurs siècles, puis c'est pas obligé de le faire, mais si les vignerons le veulent, ils le peuvent. Donc, le Cabernet Sauvignon amène de la structure, de l'alcool et des tanins, tandis que le Cabernet Franc, le côté un peu plus éclatant, qui est plus riche en arômes et en acidité. Le Merlot, lui, amène le côté plus fruité, moelleux et riche. Puis les trois ensemble, ben, ils font en sorte que le vin obtient une balance, une complexité autre que si on présente le cépage tout seul. Mais un vigneron le peut aussi devoir, à cause de son appellation, c'est écrit dans la réglementation, doit faire des assemblages pour pouvoir écrire sur son étiquette le nom de son appellation. Comme Corbière, par exemple, qui doit avoir un minimum de Grenache, Mourvèdre, Syrah, de Carignan. Puis ça fait partie, en fait, de l'identité du terroir.
OK, OK. Moi, je pensais que peut-être que c'était parce que il y avait eu un peu de difficulté avec ses productions, donc il s'était mis à mélanger son vin. Mais
pas forcément.
Pas forcément, mais c'est une bonne réponse. Merci. J'espère que Bernadette est satisfaite.
Parce que des fois, en fait, s'il n'y a pas eu une grande production, le vigneron peut décider de mélanger ses vins, mais souvent, c'est par obligation ou par goût.
Mm-hmm. Combien de cépages tu penses que tu pourrais nommer, toi?
Mon Dieu, je sais pas, vite, même sans arrêter, Riesling, Meurtrigo, Syrah...
OK, OK, non, j'ai une meilleure idée. On va peser sur stop, tu vas les écrire sur une feuille de papier puis on va les compter, OK? Okay, on vous revient, là, stop. On est de retour pour le décompte final du nombre de noms de cépages que Charlotte a pu nommer. Et le résultat est 75!
Oui, 75!
Quand même, mais c'est ton métier, hein?
En effet.
C'est normal, quand même. Hein? Moi, je pense pas que j'aurais pu faire ça. En plus, t'es pas sortie du bois, hein, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec les changements climatiques. Il va falloir continuer de développer des cépages plus résistants. Mm-hmm. Donc, il va falloir que tu apprennes d'autres noms.
C'est vrai. L'histoire des cépages s'écrit encore. Puis chez Alain Brault, par exemple, il travaille là-dessus à développer des nouveaux cépages.
Hey, mais il va falloir leur donner un petit nom à ces cépages-là. Il va falloir les baptiser. Mais ça tombe bien parce que j'ai quelques suggestions pour toi. J'ai visité un site Internet qui génère des nouveaux mots. Hein, en fonction, tu veux un nombre de syllabes, paf, ça t'en donne.
Okay.
Et j'ai ici une petite liste, je vais vous les lire rapidement. Alors moi, je propose Myrto. Hernel, Gamlumbor.
Ouh, ça c'est un peu touchy.
Silarlum.
C'est très poétique.
Marsilasto.
Ça fait un peu Astérix et Obélix, celui-là, non? En tout cas, c'est des belles sélections, Émilie, puis je vais avoir du fun à les apprendre, hein, ces ces pages-là.
Toi qui apprends tant de noms par cœur pour ton métier.
D'autres noms à coucher dehors. Puis je pense que tu pourrais vraiment faire carrière là-dedans.
Oh, oui, je pense que j'ai un don pour inventer des choses farfelues.
C'est vrai. ton côté artiste.
Et maintenant, on peut mettre à l'épreuve notre diction. J'ai listé des noms de cépages et j'aimerais que tu me lises les petits noms ici que je te donne, là.
OK.
Un petit papier devant toi. C'est des noms de cépages qui sont disponibles à la SAQ. Et j'aimerais que tu les lises le plus rapidement possible.
D'accord, je vais essayer de faire mon possible. Côte Picpoul, Cocotiola, Pericone, Pamplemousse, Volsitelidi.
Plus vite, encore.
OK. Côte Picpoul, Cocotiola, Pericone, Pamplemousse, Volsitelidi. Hey,
c'est difficile, hein? Très c'est difficile.
Mais toi, vas-y, ma petite journaliste, toi qui as une diction exceptionnelle.
Ah ouais, hein? Hey boy. Zibibo, Tsaouti, Cotifali, Calavriata, Daboukir, Seveu.
Chenin, Merlot, Baga, Groslot, Cotifali, Petit Moscato, Picpoul, Malbec, Clairette, Shiraz, Frontenac, Côte, Guévut, Raminard, Coco, Chola, Pampanito, Pinot, Grigio, Punitello, Sangiovese, Syrah, Muscat, Aligoté, Calivrata. Fermentation. 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 Chenin, Merlot, Baga, Groslot, Cotifali, Petit Moscato, Picpoul, Malbec, Clairette, Shiraz, Frontenac,
Est-ce qu'on a des fans de Daft Punk parmi nous? J'espère que vous avez apprécié notre petit remix. C'est déjà tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. On vous laisse avec la question quiz pour le prochain épisode, comme à l'habitude. Alors, Charlotte, est-ce que tu voudrais nous lire la question, s'il vous plaît?
Oui, donc c'est une question sur la dégustation et j'aimerais vous demander, d'après vous, qu'est-ce qui caractérise gustativement les vins du Québec? A. L'acidité vive, B. Des tanins fermes et présents, ou C. Un corps corsé.
La réponse vous sera donnée dans le prochain épisode, dans lequel on vous prépare un petit cours de dégustation éclair. Charlotte, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus?
Oui, donc pour le vin blanc, on va déguster le Bourgogne Côte-Saline Chardonnay du domaine Guéguin 2019. Et pour le rouge, on va déguster le Rioja Cosme Palacio Vendimia Seleccionada 2016. Pour les codes SAQ, on va vous les laisser dans la description du balado, comme ça vous allez avoir plus de facilité à les trouver en SAQ ou sur le site web.
Ben, je vous rappelle aussi que si vous avez des questions pour Charlotte, des commentaires ou des propositions, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire ou par courriel. Toutes les informations se trouvent sur nos plateformes web. Merci tout le monde, à bientôt et bonne dégustation!
Ciao!
Bye bye! Technologique. Est-ce qu'on a des fans de Daft Punk?
C'était vraiment charnu ce que tu viens de faire.
Aromatique, j'espère. Je recommence.
Charnu pour charnel.
Le balado qui vous fait découvrir le monde du vin et vous donne envie de faire voyager vos papilles gustatives, surtout dans ces temps où on ne peut pas... Oui, yeah! Ha, ha, ha! Salut tout le monde! What the f***?